France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est une histoire indissociable des comédie-clubs et de toutes les petites scènes de stand-up qui sont apparues dans les villes moyennes et grandes. Une histoire qui ne pourrait pas non plus se passer sans les réseaux sociaux, où Violaine, notre stand-upeuse du jour, poste des sketchs, des blagounettes et des petites vidéos pour prolonger le plaisir de la rencontre avec son public, qu'elle appelle parfois ses fans. Mais l'essentiel, c'est quand même la scène. Qu'il soit 10 ou 100 dans le public, elle arrive avec sa valise de blagues et elle ne se démonte pas, elle y va franco, même pas peur, même si ses vannes tombent plus ou moins à pic. Car Violaine est une humoriste très particulière, qui occupe une niche, l'humour noble. Elle plaisante sur les rallyes, sur l'opéra, les catholiques, les PAM, vous apprendrez ce que c'est, les Catherinettes, elle parle de dating aristo, rigole sur l'aristocratie qui n'aime pas la bourgeoisie et propose même une reprise de Mylène Farmer intitulée « Génération guillotinée ». Elle a appelé son petit spectacle Métro Boulot Aristo et joue dans les bars à chicha et les restos paumés, dans les caves et les bars populaires, au milieu des mecs bien virils et des filles féministes. On l'a autant rencontrée pour nous parler de son aventure d'humoriste que de son ethos aristo et comment elle s'en sort dans un monde contemporain où elle plane parfois un peu. Un reportage d'Alice Durieux et Florence de Talouette.
Alors, je m'appelle Violaine Depince, j'ai 25 ans, je viens de terminer mes études en école de commerce et depuis 3 ans, je me suis lancée dans le stand-up. J'ai plusieurs prénoms, Violaine, Marie, Guillemette, Xavier. Alors Violaine, c'est parce que ma mère aimait beaucoup la pièce de Paul Claudel, L'annonce faite à Marie. Donc le personnage principal, c'est Violaine et puis elle aimait beaucoup les sonorités de ce prénom. Alors, je sais que mes parents avaient pensé aussi à Hermès Sand comme prénom, puisque c'est une ancêtre. Mais bon, j'avoue que... Enfin, je préfère Violaine, c'est un peu plus moderne. Marie, après, c'est assez fréquent dans les milieux catholiques. On a souvent Marie pour la Sainte Vierge en deuxième prénom. Guillemette, ma marraine, et puis Xavier, parce que mon parrain s'appelle Xavier. Mon nom complet, c'est De Pince de Cocalière. C'est le nom de mon père. Parce que du côté de ma mère, il y a aussi une particule et on n'allait pas non plus en rajouter. Et parce que moi, je viens de la noblesse française. Et du coup, il y a un village dans le sud-ouest de la France qui s'appelle Cocalières, où il y avait un château, mais il a été détruit. Il ne reste plus que la porte qui est exposée dans le square public. Et il y a une petite place, la place du baron de Pince. Puis du côté de Toulouse, il y a une autre ville qui s'appelle Pince-Justaret. Ça a été le fief de la famille, mais voilà, il y a plusieurs siècles. Après, la famille date du... La première attestation, c'est 7e siècle, donc c'est vraiment ancien. Alors, mon père a un titre, mais on dit que c'est un titre de courtoisie parce que c'est pas l'aîné de ses frères. Donc, normalement, c'est que l'aîné qui a le titre. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de petite souplesse, voilà. Donc, il a le titre de baron. Du côté de mon père, effectivement, on a une propriété de famille dans le sud-ouest. Donc vraiment, on est dans le coin depuis 1368. Enfin, c'est des grands terrains. Chaque cousin a sa petite maison. Enfin, nous, en l'occurrence, c'est une maison qui date du 19e siècle, voilà, qui est assez petite, en fait. Enfin, il y a 4 chambres, un salon, une salle à manger. C'est pas immense. C'est en montagne, donc le climat est un peu rude et c'est pas des grands châteaux. Le nom de ma mère, c'est De Maillard Taillefer. Il y a une page Wikipédia sur le sujet qui s'appelle le massacre d'Hautefaille. En fait, au 19e siècle, j'ai un ancêtre qui s'est fait manger par ses paysans. Je crois que c'est le dernier acte de cannibalisme attesté dans l'histoire de France. C'était un été, il faisait chaud, ses paysans avaient bu. C'était la guerre contre les Prussiens, je crois, à ce moment-là. C'est dans les années 1870. En fait, ces paysans, à un moment, se sont énervés pour je sais plus quel motif. Lui, il a essayé de les raisonner, et puis en fait, il s'est fait tuer, et ils ont mangé sa graisse sur du pain. Enfin voilà, c'est un truc... Ça, c'est un des épisodes de l'histoire de la famille. Alors les vacances, oui, c'était souvent chez mes grands-parents maternels en Périgord. Alors avec mes cousins, je me souviens qu'on regardait beaucoup Les Malheurs de Sophie, on avait les cassettes. Et comme nous aussi, on était dans un château, du coup, on rejouait le dessin animé entre nous. Et je me souviens qu'il y a une scène d'ailleurs dans Les Malheurs de Sophie où elle court dans un escalier et puis nous, il y avait aussi un escalier, alors on faisait des cavalcades dedans et puis après on se faisait engueuler parce que ça faisait trembler les lustres du salon en dessous. Voilà, mais c'est vrai qu'entre cousins, c'était très détendu quand on était petit. Après, c'est vrai que oui, quand on passe au niveau adulte, on va dire, c'était un peu plus formel. Moi, je vous voyais mes grands-parents, je vous vois mes oncles et tantes, je ne vous vois pas mes parents. Mes cousins, en revanche, vous voient leurs parents. Et quand on prenait nos repas, alors quand on était petit, on était à la cuisine, mais après, voilà, quand on était plus grand, on était à la table des adultes et on était placés selon le protocole. Donc ça veut dire, voilà, ma grand-mère en face de mon grand-père, et puis après une alternance, donc la fille aînée à la droite de mon grand-père, la deuxième fille à la gauche de mon grand-père, et puis symétriquement, pareil. Donc le fils aîné à la droite de ma grand-mère, et puis après, bon, il n'y avait pas d'autre fils aîné, donc c'était un des gendres à la gauche de ma grand-mère, etc. Et puis on se plaçait comme ça par ordre d'âge et alternance homme-femme. On a eu des cousinades, effectivement. On invite toutes les branches de la famille. Donc on en a une du côté de mon père, donc du côté Pince, en 2018, et on était... Je sais pas combien on était, je pense qu'on était 400. Y a des gens qui venaient du Canada, des États-Unis, enfin. Et on avait effectivement des couleurs par branche. Donc nous, je me souviens, on était la branche verte. Et puis il y avait trois autres branches, donc il y avait jaune, rouge et bleu. Et donc en fait, donc celui qui avait organisé nous avait fait faire, c'était des petites olympiades. Il y avait une conférence sur l'histoire de la famille, des petites activités organisées et puis un dîner. Après toutes les activités, oui, il y avait une soirée dansante, ouais. Et oui, alors ça danse ce qu'on appelle le rock versaillais, quoi. C'est-à-dire qu'on danse rarement tout seul. Enfin, il y a à la fin de la soirée, c'est la partie boîte de nuit où là tout le monde danse tout seul. Oh là là, c'est la décadence. Et sinon, oui, on danse par couple. Enfin, le rock, qu'on a plus ou moins tous appris quand on a été dans des rallyes. Catholique, je pratique. En fait, historiquement, la noblesse, elle est catholique. Et donc, dans mes amis, on est plus ou moins quand même tous pratiquants. Après, il y en a qui pratiquent pas, qui sont juste de culture, mais qui vont pas à la messe. Mes parents m'ont élevée dans la religion catholique, et après, moi, j'ai fait le choix de continuer là-dedans. C'est vrai qu'en général, quand je dis que je suis catholique, les gens tout de suite pensent, ah oui, donc en fait, tu vas à la messe à Versailles... Et tu mets une jupe longue et... Bon, en fait, moi, je vais à la messe et j'y vais en pantalon. Quel crime. Mais j'ai des amis qui mettent un point d'honneur à être assez chic. Moi, c'est vrai que, comme en plus souvent, je joue le dimanche après-midi, je privilégie plus le confort. Moi, je vais à la messe en français. Pour moi, la messe en latin a un côté plus priant, plus recueilli. La messe en français, plus conviviale, plus facile aussi d'accès. Même la messe en latin, c'est vrai que les gens sont plus chics. Moi, quand je vais à la messe en latin avec mes cousins, je mets une robe. Pour le coup, j'y vais pas en pantalon. Alors, sur toutes les questions de sexualité et tout avant le mariage, moi, je dirais que c'est plus d'un point de vue plus catholique, plus religieux que vraiment du milieu. Mais oui, en tout cas, moi, dans ma famille, ça se passe comme ça. Oui, on n'habite pas ensemble avant de se marier. On couche pas ensemble non plus. On dit je suis PAM, ça veut dire je suis pas avant le mariage. Et oui, moi je suis dans cet état d'esprit là, mais vraiment par conviction personnelle, pas parce que on me l'a imposé. Alors oui, après c'est sûr que c'est mal vu, mais enfin il y en a qui sont très discrets. Je sais que dans mon milieu il y en a, ils ont déjà couché et tout. Moi je me dis j'ai pas à juger les gens. Mais voilà, après, on n'est pas non plus déconnecté complètement de notre époque, donc même dans le milieu de la noblesse, il y en a qui se gênent pas, quoi. Et après, oui, je pense que ma famille, enfin mon père et puis mes oncles et tantes, etc., attendent de moi un certain style de conjoint. Donc, je pense que mon père, le principal truc, c'est vraiment qu'il soit un catholique. Et pour moi aussi, ça compte, en fait, voilà, de partager la même foi. Et après, oui, je pense que ça choquerait un peu si... Si je me mariais avec quelqu'un de racisé ou quelqu'un qui parle pas français, dans le stand-up, oui, j'ai rencontré plein de gens, mais il y a jamais quelqu'un qui m'a plu. Je sais pas, pourquoi pas en fait un autre artiste, mais les stand-uppers que je croise en fait c'est tellement différent, c'est tellement un autre milieu. Que eux rentrent dans ma famille, que moi je rentre dans la leur, enfin, ça va demander vraiment beaucoup d'adaptation, donc je sais pas si moi je serais prête à faire l'adaptation, si lui, il serait prêt à s'adapter aussi. C'est sûr que moi, je vois un gars en survêt et en jogging, bah en fait, ça m'attire pas, alors que, ouais, moi, mes amis qui se mettent, voilà, en petit costume, enfin, je trouve ça... J'ai plus de chance, je pense, d'être attirée par, par ça. C'est sûr que si c'est quelqu'un d'un autre milieu, d'une autre religion, qui a d'autres origines, ça, enfin, je pense dans la famille, ça va... Oui, ce sera pas évident. Dans le milieu de la noblesse, et je pense chez les catholiques, en fait, il y a un peu une défiance vis-à-vis de l'argent. Alors, dans la noblesse, il y a vraiment ce truc de... en fait, ce sont les bourgeois qui font des affaires, mais... Oui, il y a vraiment... En fait, historiquement, la noblesse, elle ne travaillait pas, elle se battait... Enfin, elle avait une fonction militaire. Et, en fait, voilà, nous, on a des terres avec la terre agricole ou des bois ou une maison. Mais c'est problématique parce que effectivement, on a des propriétés dont on a hérité et en fait, on n'a pas du tout les moyens de les entretenir. Je pense que la noblesse, ouais, elle se définit peut-être plus par le rattachement à un lieu, à la terre. Enfin, on dit, en fait, la particule, c'est ça, c'est d'où on vient. Enfin, moi, je suis de Pince, parce qu'il y a Pince, ce petit village. Quelqu'un de bourgeois, il va avoir un nom de famille qui dit pas sa provenance, forcément. Donc, en tout cas, dans ma famille, oui, il y a eu un déclassement économique. Quand j'étais au lycée à Neuilly, j'étais avec des gens vraiment de la grande bourgeoisie. Et donc, il y avait des apparts immenses à Neuilly, dans le 16e, dans le 17e. Je me souviens que quand je suis arrivée en CM1, moi, je me sentais un peu pauvre parce que quand les filles de ma classe disaient où elles partaient en vacances, enfin, je me souviens qu'il y en a une à Noël, elle était partie aux Maldives. Et moi, j'étais partie chez mes grands-parents en Dordogne, dans un château forcément pas chauffé. Enfin, chaque Noël, j'étais malade. Donc, c'était pas le même... Le même délire. J'écoute beaucoup de musique, mais beaucoup de musique classique, beaucoup d'opéra aussi. J'aime beaucoup l'opéra. J'aime beaucoup y aller aussi à Paris. Il y a des petites combines assez avantageuses pour pas payer très cher sa place. Et après, quand j'étais adolescente, j'ai découvert plus la chanson française des années 20 aux années 60, quoi, à peu près. Berthe Silva, Miss Tinguette, Maurice Chevalier, enfin voilà, tous ces chanteurs-là. Et donc c'est vrai que quand j'écoute une musique des années, post-années 60, on va dire, pour moi, je trouve ça récent. Ouais, mais j'avoue que je me suis jamais forcée à être à la mode dans mes goûts musicaux, même dans mes tenues vestimentaires. Quand j'étais petite, je mettais des robes à smoke avec les petits nœuds, là. Enfin, c'est vraiment des petites robes, vraiment très petites filles modèles, quoi, avec les manches ballons, le col Claudine, le col rond, et le nœud qu'on attache derrière. Alors, ma maman me disait, ça s'appelle un suivez-moi, jeune homme. Donc, du coup, je disais, tu peux me faire le suivez-moi, jeune homme. Ouais, donc, assez petites filles modèles. Moi, j'ai pas les oreilles percées, parce qu'en fait, je porte pas de bijoux. Sauf quand je vais dans mes soirées robes longues et tout, ça m'arrive de mettre un collier, mais moi le seul bijou que je porte c'est la chevalière, du coup c'est une petite bague où il y a les armes de la famille qui sont gravées dessus, donc moi c'est les armes du coup de mon papa puisque c'est son nom que je porte. Alors moi c'est assez transparent parce que je m'appelle De Pince, vraiment comme l'arbre, le pin, et là c'est trois pommes de pin qui sont représentées, parce que comme c'est une famille assez ancienne, du coup Les armes sont très parlantes et elles sont assez sobres aussi. Il y a des familles qui ont des blasons assez compliqués, avec plein de trucs dessus. Moi, c'est pas le cas. Et donc voilà, c'est la seule chose que... le seul bijou que je porte. Alors j'ai fait de la danse classique quand même quand j'étais petite. Je pense que ça m'a marquée parce que y a ce côté de ça rend gracieuse et ça aide à bien se tenir aussi, à avoir un beau port de tête, à voilà, même à table, enfin on se tient droit, on ne s'appuie pas sur le dossier de la chaise, voilà. Et j'ai fait du théâtre quand j'étais petite. Je pense que c'est moi qui avais dû demander à ma maman de m'inscrire, parce que justement elle m'avait beaucoup emmené voir Molière au théâtre Fontaine. Donc je me souviens, je riais, enfin surtout devant les personnages de servantes là qui ont toujours du répondant et tout. Donc, ça m'a quand même pas mal marqué quand j'étais petite, et j'aimais beaucoup la comédie déjà. Faire rire, c'était vraiment ce que je préférais. Donc j'ai fait ces activités là, et après je suis partie à Henri IV. Et en cours de prépa, l'idée du théâtre, elle était toujours là. Mais après, j'ai mis du temps à décider d'essayer d'en faire mon métier. Et donc, j'ai fait deux stages de césure, puis mon stage de fin d'études dans un cabinet de conseil. Donc, en fait, c'était dans une tour à la Défense, au 18e étage. C'était pas du tout un cabinet de fous furieux. Hein. J'étais pas chez McKinsey. De toute façon, je n'ai pas fait HEC, donc j'avais pas accès à un certain nombre de cabinets. Mais... moi, j'avais pris une spécialité affaires publiques en école de commerce. Donc, c'était du conseil pour le secteur public, pour les ministères que j'ai fait en transformation numérique. Parfois, on a tendance à se dire le conseil, c'est bullshit job. Mais moi, je trouvais quand même qu'il y avait un... C'était pas complètement dénué de sens. Mais moi, quand j'arrivais dans l'open space, en fait, je me sentais un peu enfermée. Je me disais, je vais pas me lever chanter un air d'opéra au milieu des gens, alors que enfin c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'avais l'impression que j'utilisais pas assez mes compétences, en fait. Enfin, j'ai le côté créatif, j'aime bien écrire, j'aime bien l'éloquence. Là, c'est vrai que moi, j'utilisais surtout mes capacités de réflexion, mais je trouvais que c'était assez limité. Au mois de juillet dernier, ils m'ont proposé donc un CDI et du coup j'ai refusé un CDI. En salaire net mensuel, c'était à peu près 2 500 € par mois. Donc quand on est jeune diplômé, ouais, c'est bien. Enfin, c'est vraiment bien. Et quand j'étais en stage, j'étais payée plus que le SMIC aussi. Donc c'est vrai que mon père était pas très content. Mon milieu m'a pas poussé non plus vers le théâtre, parce que dans la noblesse aussi, il y a ce goût pour l'excellence et l'exigence. Donc, faire du théâtre, ouais, on n'a pas d'artiste dans la famille, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors, j'ai une cousine qui restaure des tableaux, mais c'est un petit peu différent. C'est pas des métiers de la scène où on se donne un spectacle aussi. Oui, il y a aussi la dimension de représentation, je pense, qui est peut-être pas évidente, parce que dans mon milieu, voilà, en fait, faut être discret, faut être réservé, encore plus pour une femme, voilà, faut pas trop non plus, pas trop parler, enfin en tout cas, faut avoir des choses intéressantes vraiment à dire si on parle, pas trop exprimer non plus ses émotions. Alors je pense que c'est le cas pour plein de gens, mais c'est vrai que dans mon milieu, il y a ce côté, en société, on va pas mettre le curseur très haut dans les émotions, quoi. C'est si on est joyeux, on va le dire, mais on va pas non plus sauter de joie. Si on est triste, la tristesse quand même, ou la colère, c'est quand même des émotions négatives, faut pas trop les montrer. Et quand j'ai commencé le stand-up, du coup, alors déjà quelques mois avant, je connaissais pas ce terme. Et quand j'ai commencé à jouer dans les comédie clubs, c'est souvent dans des caves avec des chaises, et puis c'est entrée sur consommation au bar, donc faut prendre un verre. Donc en plus, j'ai des oncles et tantes qui vont quasiment jamais au bar. Enfin, c'est un truc, c'est pas du tout dans les activités qu'ils font. Et oui, il y a des chaises. Alors on n'est pas hyper bien assis. Et oui, donc effectivement, j'avais pas tous les codes. Par exemple, quand j'écris au Comedy Club sur Instagram, en fait, je sais jamais qui est derrière le compte. Enfin, j'ai pas le prénom de la personne. Moi, j'aime pas trop écrire dans le vide, enfin, sans savoir à qui je m'adresse, parce que, enfin, je vais pas adopter le même ton si c'est, je sais pas, un gérant un peu, voilà, qui a des responsabilités. Alors, faut que je mette un truc un peu formel, ou est-ce que c'est juste un autre stand-upper qui a mon âge, donc là, je vais être plus familière. Je mets bonjour, cordialement, machin. Ou bonne journée quand c'est un peu familier, quoi. Et puis pareil sur les sujets abordés, ouais, les trucs, voilà, les blagues ultra trash sur la sexualité et tout, enfin vraiment c'était des trucs qui me choquaient, même parfois des blagues d'humour noir, waouh, qui sont ultra poussées, le côté humour, enfin je prends des guillemets, mais vulgaire, enfin dans mon milieu personne n'aime ça, et d'ailleurs c'est très drôle parce que quand je jouais, le tout premier stand-up, bah, il y avait que de ma famille, il y avait que mon père. Il y avait aussi des amis qui étaient là. Ils n'avaient pas les codes. Enfin, il y avait des références qu'ils n'avaient pas dans ce que racontaient les artistes sur scène. Les artistes font aussi beaucoup d'interactions. Enfin, moi, je sais que mon père, bon, enfin, il répondait parce qu'il a le sens de l'humour et tout, mais enfin, il n'avait pas l'habitude. J'ai des amis qui sont venus avec leurs parents aussi, donc pareil, pas du tout habitués à ce qu'on leur parle et à ce qu'un artiste déjà qui, je sais pas, qui a 20 ans leur dise « Oui, monsieur, comment tu t'appelles ?» Alors déjà, tutoyer, ok, alors « Ah, je m'appelle Hervé. Ah oui, ah bah oui, tu viens du 16e » ou je sais pas quoi. Enfin, du coup, des trucs, voilà, tous les codes un peu de la politesse classique de notre milieu sont cassés comme ça. Ouais, on n'a pas les mêmes logiciels, pas les mêmes refs. Alors du coup, j'intègre du chant lyrique parfois dans mes passages et dans mon spectacle aussi. Moi, je l'ai un peu introduit quand même, j'ai un peu expliqué ce que c'était, donc faire un peu des blagues sur l'opéra. Je le fais à des fins comiques, mais aussi parce que j'aime bien ça. Et en fait, sur Instagram, je vois, c'était récemment, hein, un lieu qui cherchait des humoristes et des chanteurs. Donc j'ai répondu à l'annonce en disant « bah moi, je peux venir faire des blagues et chanter de l'opéra ». Puis bon, pas de réponse. Et puis à un moment, je reçois un message. Je t'ai programmé à telle date pour l'opéra et à telle autre pour le stand-up. Donc je me dis, ok, j'avais un peu oublié ce truc. Mais... Et puis j'en parle à d'autres humoristes. Ils me disent, mais tu sais que c'est une chicha. Et j'étais là, ah bah trop bien, on va aller tester. Enfin, il paraît que c'est vraiment dur de jouer dans les chichas, de faire rire et tout. Mais bon, la première fois, c'était juste pour l'opéra. Et donc j'y suis allée. Ça commençait à minuit et demi. Ça c'est fini, je suis plus à 2h30 du matin. Et oui, alors là, bah, clairement, j'étais en minorité, parce que c'était pas du tout des gens du milieu, quoi. Et en vrai, c'est trop drôle. C'était hyper chaleureux et tout. Je me suis pas du tout sentie mal à l'aise, j'avais un peu peur de ça. Et du coup, j'ai chanté un peu de l'opéra. Alors, il y a un groupe qui se foutait vraiment de ma gueule, mais parce que, en fait, c'est vrai que c'est hyper comique quand on connaît pas. Voilà, d'avoir des aigus et tout comme ça. Donc je suis allée les voir, je me suis approchée d'eux pour leur chanter à 2 cm des oreilles. Et puis les autres étaient super à fond. Et donc du coup, ils m'ont demandé si la fois d'après, je pouvais refaire. Donc j'y suis retournée. Et pareil, en fait, j'avais des gros préjugés, des gros a priori en me disant... mais en fait, ces gens, ils ne connaissent pas du tout les airs d'opéra, donc... Je vais prendre Carmen parce que c'est un peu connu, il y a moyen qu'ils connaissent. Puis après, l'organisatrice, elle me dit « Ah non, mais tu peux faire ça et ça aussi, ça, ils connaissent. » Ah, ok. Enfin, du coup, je trouve que oui, ça déconstruit aussi des... Enfin, un peu des a priori qu'on a, quoi. C'est un choix de vie, bah, le théâtre, enfin tous les métiers artistiques, je pense que c'est vraiment des choix de vie parce que bah, je vois, oui, j'ai moins le temps d'aller bah, au bal ou je sais pas où, dans des soirées, parce que je joue en fait à ce moment-là. J'ai choisi de me consacrer, je me suis donné un an parce que le cabinet de conseil m'a dit que je pouvais revenir, enfin qu'il me réemploierait si je voulais revenir. Donc j'ai cette sécurité-là. Après, je ferai le point dans un an. Je pense que le stand-up, ça m'a changé. Ça m'a détendu un peu sur... pas toujours être hyper à cheval sur les codes de politesse, machin. Maintenant, par exemple, quand quelqu'un de plus âgé me dit « Non, mais tu peux me tutoyer ?» Avant, ça me gênait beaucoup. Maintenant, bah, je le fais assez naturellement. Je vois aussi, effectivement, par rapport à des amis de la noblesse ou quoi, que j'ai vécu des choses qu'ils n'ont pas du tout vécues, que moi, j'ai rencontré des gens qu'ils n'ont pas rencontrés. Par exemple, il y a énormément de gens qui sont de confession musulmane dans le stand-up. Moi, c'est vrai que je pense que j'en aurais très peu rencontré si j'avais pas fait de stand-up. Et du coup, de les rencontrer, de discuter avec eux... Enfin, c'est vrai que tout le discours politique qu'il y a autour prend tout de suite une autre réalité quand on rencontre des gens vraiment en chair et en os. Pareil, je sais que même il y a des endroits en Île-de-France où je suis allée. Je suis allée, par exemple, à Cergy, vraiment... au bout du monde, parce que c'était hyper loin de la gare du RER, je suis passée par des zones, bon, terrain vague, avec des gens qui commençaient à se tabasser, donc je me suis dit, oula, je vais passer vite, vite. Tout le quart un peu nord-est de Paris, c'est vrai que c'est des quartiers, comme on dit, une jeune fille de bonne famille ne va pas, 19e, 20e. Mais oui, c'est marrant, j'avais une manager, du coup, dans mon cabinet de conseil, à un moment, qui disait, j'ai une formation, je sais pas où c'est, là, c'est métro Colonel Fabien. Je dis, ah oui, bah oui, c'est la ligne 2, ça doit être 11e ou 20e. Et je me disais, oui, bah c'est vrai que elle est très... c'est plutôt la bourgeoise et tout. Donc en fait, forcément, elle n'a pas de raison d'aller dans ces quartiers-là. Elle a pas d'amis qui habitent là-bas. Et comme moi, il y a des gens dans le stand-up qui me disent, je suis jamais allée, je sais pas, genre à Versailles ou... Ou alors je suis jamais allée voir le château. Enfin, et là, voilà, le fait de voir des gens, des stand-uppers, faire de l'impro, aller charrier le public, ça m'a permis de me dire oui, c'est possible en fait de faire ça. Et voilà, et c'est pas grave. Enfin, c'est complètement admis. Mais je sais que je pense que sous le rire, on peut encore se cacher. Je pense que je me cache encore un peu. J'ai pas encore levé toutes les barrières non plus que je me mets, que le milieu m'a mise. Et le stand-up m'amène loin, plus loin que ce que je pensais finalement.
C'était L'Humour Noble, un reportage d'Alice Durieux et Florence de Talouette, réalisé par Perret Legras et mixé par Nicolas Leroulet. Merci bien sûr à Violaine, à Moresco et au Comédie Café Pigalle. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Mina Morel.